je prenais pour acquis le droit fondamental, le droit fondamental. C'est toi qui m'as permis le choix du grand large. Tu vois,
vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Amateurs de rock, le samedi soir, c'est à CKIA que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Sans frontières, c'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Salut tout le monde, ici Bruno Laberge, l'animateur du Polymath. Tout d'abord, je voudrais juste dire qu'un polymath, c'est une personne dotée d'une culture poussée, sérieuse et large. Joignez-vous à nous, Pascal Despins, à la recherche et à la réalisation, ainsi que moi-même, Bruno Laberge, à la narration et à la production, les dimanches à 11h, sur les ondes de CKIA 88.3 FM.
Coupures budgétaires, mises à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité, comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA FM.
Vous aimez la littérature et le monde du livre? Ne manquez pas Épilogue pour découvrir chaque semaine des livres d'ici et d'ailleurs. Entrevues avec des écrivains, critiques de romans, de poésie, d'essais, de BD et actualités littéraires sont au menu de cette émission qui propose de tout aux oreilles du lecteur et de la lectrice en vous. Épilogue, le dimanche midi, rediffusion mardi 10h sur les ondes de CKIA FM.
Depuis plus de 27 ans, Profil est la référence en rock progressif. Découvertes musicales, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88.3 FM ou sur profilprog.com.
Aux quatre coins du rock. Pour explorer les différentes tangentes du rock'n'roll. Les mercredis soirs, de 21h à 22h, aux quatre coins du rock.
Toute simplicité. Thank you. Il faut que je sorte assez au grand air pour faire l'expérience de la saine réalité afin d'équilibrer la pensée et le sentiment. La santé requiert cette détente, cette vie sans but, cette vie au présent. On pense ce qu'on veut de la nature entre quatre murs. Elle sera toujours nouvelle à l'extérieur. Je vis en plein air pour le minéral, le végétal et l'animal qui est en moi. Ma pensée fait partie du sens du monde et je me sers donc d'une partie du monde comme d'un symbole pour exprimer ma pensée. Il est vain de rêver d'un monde sauvage éloigné de nous, car il n'y en a pas. C'est le bourbier de notre cerveau et de nos entrailles, la vigueur primitive de la nature en nous qui inspire ce rêve. Je ne trouverai jamais dans les déserts du Labrador un monde sauvage plus vaste que dans quelques recoins de Concorde, c'est-à-dire l'espace sauvage que j'y rapporte. Un peu plus de virilité ou de vertu rendra partout la surface du globe neuve, excitante et sauvage. Cela fournira et rétribuera le violonneux. Cela transformera la route communale en marais à canneberges inexplorés, car cela redonne à tout sa fraîcheur originelle et primitive, ainsi que son état prometteur.
Je prends le train.
Alors, c'était Le chemin de fer souterrain de l'album de Richard Séguin, Le retour à Walden. Dans les actualités, ben encore une fois, là, on a on parle des changements climatiques beaucoup dans les médias. Ça va devenir c'est notre réalité, en fin de compte. Et ici, dans le Devoir de la semaine dernière, on annonçait le sommet qui a eu lieu cette semaine, là, après un été marqué par des événements climatiques extrêmes et dévastateurs. L'ONU organise le 20 septembre un sommet spécial pour tenter de rehausser enfin l'ambition climatique mondiale. Mais des experts doutent de la volonté des États à faire le nécessaire malgré les conséquences évidentes de l'inaction. Effectivement, il y a eu deux grands absents au sommet là, de cette semaine, la Chine et les États-Unis, les plus gros, les deux principaux émetteurs. Ensuite de ça, ben ce qu'on a vu cette semaine, c'est que la Grande-Bretagne a annoncé qu'elle finalement réduisait, là, on dit, c'était dans le Devoir, ça, de jeudi d'hier, jeudi 21 septembre, début de l'automne. Le Royaume-Uni met un coup de frein à plusieurs engagements climatiques, un coup de frein réaliste, entre guillemets. Le premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé mercredi le report de plusieurs mesures phares de la politique climatique du Royaume-Uni, une décision dénoncée comme électoraliste et réprouvée dans les milieux économiques jusqu'au sein des conservateurs au pouvoir. J'ai confiance dans le fait que nous puissions adopter une approche plus pragmatique, proportionnée et réaliste pour atteindre la neutralité carbone qui allège le fardeau sur les travailleurs, a déclaré Rishi Sunak lors d'une conférence de presse hâtivement organisée, après que ses intentions ont fait l'objet de fuites dans les médias. Alors, on a même le président de Ford qui a mal réagi à ça, parce que on voit que les compagnies, les entreprises dans le domaine de l'automobile sont en train de faire le virage. Et là, ils ont reporté en Grande-Bretagne, ils ont reporté le virage complet là, à l'auto électrique, je pense, de 5 ans ou 10 ans plus tard. Alors, c'est ça, il y a des reculs, malheureusement, au niveau des initiatives des États. Dans les nouvelles plus positives, c'était dans le Devoir de mercredi. L'annonce l'île d'Anticosti, joyau de l'humanité, la plus grande île du Québec, a été inscrite mardi au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa géologie. La liste du patrimoine de l'UNESCO compte maintenant un nouveau site québécois, l'île d'Anticosti. Le comité du patrimoine mondial a confirmé mardi l'inscription de la plus grande île de la province en raison de sa géologie, qui témoigne de la première extinction massive de vie animale à l'échelle mondiale. Soutenue depuis 2017 par le gouvernement fédéral, la candidature de l'île s'appuyait essentiellement sur la valeur de sa géologie, principalement à travers ses fossiles. L'île d'Anticosti est mondialement reconnue pour ses fossiles exceptionnels de la période se situant entre l'Ordovicien supérieur et le Silurien inférieur, il y a près de 445 millions d'années, qui n'ont aucun équivalent ailleurs sur la planète. Cette période représente un jalon important dans l'histoire de la Terre, à savoir la première extinction massive de vie animale à l'échelle mondiale, précisait alors une note publiée par Parc Canada. Directeur scientifique du comité de pilotage du dossier de candidature pour l'UNESCO, André Desrochers, a étudié pendant plusieurs années la géologie et la paléontologie d'Anticosti. Et selon ce qu'il a fait valoir au Devoir, la plus grande île du Québec est tout simplement une première de classe comme témoin de cette période. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. C'était dans le Devoir, pour ceux qui s'intéressent, dans le Devoir de mercredi. Dans les autres lectures que j'ai fait cette semaine ou que j'ai, disons, commencé à faire. Il y a le Philosophy Magazine qui vient de sortir un hors-série sur la simplicité volontaire, qui est toute une réflexion sur le temps et le travail. La thématique du Philosophy Magazine, c'est l'art de ne rien faire. Alors, on va parler de là-haut-dessus, Épicure, Montaigne. Alors, pour ceux qui s'intéressent, numéro hors-série, Philosophy Magazine sur la simplicité volontaire. Il y a aussi la revue de Relations qui vient de sortir son dernier numéro d'automne. C'est sur l'effondrement, thématique de l'effondrement. Alors, plusieurs textes de réflexion sur l'effondrement. Alors ça, je vais y revenir la semaine prochaine. On va en parler du dernier numéro de Relations. Puis la même chose avec l'hors-série de Philosophy Magazine. Finalement, deux petites annonces. À Québec, dans le quartier Saint-Sauveur, l'espace collectif Le Racoin. Ça s'appelle le Festitouk et c'est en fin de semaine. Alors, pour ceux qui s'intéressent, c'est dans Saint-Sauveur, puis c'est une espèce de marché qui est comme organisé, comme spontané par les citoyens, les gens qui habitent dans le coin, puis qui s'organisent un festival. Je pense bien aller faire mon petit tour. C'est sur la ruelle Bayard. Si vous allez sur le site, il y a une page Facebook, Festitouk, F-E-S-T-I-T-O-O-K. Et aussi, il y aura, revenir avec cet événement-là, qui est parrainé, entre autres, par le groupe de Saint-Pierre volontaire. C'est une conférence de Michel Pigeon, qui est ancien recteur de l'Université Laval, qui a fait un doctorat dernièrement sur... il a questionné les jeunes, en tout cas, c'est une grosse recherche qu'il a fait, et les jeunes et le changement climatique. Quelle société les jeunes souhaitent face aux défis du climat? Ça risque d'être intéressant. C'est dimanche le 8 octobre 2023 à 15h à l'église Sainte-Geneviève dans le quartier Sainte-Foy. Alors voilà. Alors, on prend une petite pause musicale, puis on va revenir avec Jacques Sénécal, qui, la thématique d'aujourd'hui, on va parler de Platon.
Aucun préavis, j'en sortirai, c'est prédit, avec ou sans sursis. Depuis ma tendre enfance, j'exerce ma résilience sans aucune assurance, jusqu'à l'ultime défaillance. Je suis la Lucione, la petite bestiole qui la nuit cabriole pour conforter l'être qui se désole. À la vie, chez un cœur inassouvi, dans une tête assujettie, vous prendrez bien mes étincelles, mais sans ma mèche providentielle. C'est ma boussole, ma sentinelle, dans l'imbroglio du naturel. Je suis la luciole, la petite bestiole qui la nuit cabriole pour conforter l'être qui se désole.
C'était Jean-Marc Aurel de son album. C'était La Luciole de Jean-Marc Aurel de l'album L'Esprit Reste. Au début d'émission, j'avais lu un extrait d'Henri-David Thoreau dans une petite publication de toi qui vient d'être publiée aux éditions Le mot Il reste, c'est Pensée sauvage. Alors, Jacques, est-ce que tu es avec nous?
Oui, je suis là.
Bon.
Et, vous m'entendez bien?
Je t'entends très bien.
Bon.
Un peu de picotement dans la ligne, là, mais on t'entend très bien.
Mais moi, je t'entends moins bien.
Ah, OK. Est-ce que là, tu m'entends mieux?
Oui, je t'entends mieux, là.
OK, parfait. Alors, aujourd'hui, on va aborder un philosophe qui était comme incontournable, parce que c'était comme un géant de la philosophie, qui est Platon. On ne l'a pas abordé avant parce que, si je comprends bien, il n'y a pas beaucoup, par rapport à la simplicité volontaire, on a moins de textes ou de choses pertinentes par rapport à Platon. Ce que j'ai
dit. On va essayer d'en trouver quand même.
On va essayer d'en trouver quand même.
Oui.
Fait que c'est ça. Alors, pour commencer, je pense que c'est une bonne idée que tu nous parles un peu de qui était Platon, parce que
Platon, c'est vraiment un philosophe incontournable. C'est vraiment un monument important, là, qui a vécu au 4e et 3e, 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. En fait, il est né en 427 avant Jésus-Christ, puis il est mort en 347. Il est mort à 40 ans. Il a connu.
Oups, la ligne a coupé. Alors, je vais rappeler Jacques. Peut-être qu'aussi, on va avoir une meilleure connexion. Alors, on vous revient dans quelques instants.
Thank you.
OK, Jacques.
OK.
Oui. Alors, je pense que c'est une bonne chose que la ligne est coupée, parce que là, les picotements sont partis.
Pardon?
J'ai dit les picotements qu'on avait tantôt sont partis, donc...
Bon, tant mieux. Je ne sais pas ce qui est arrivé exactement.
La ligne est meilleure. La ligne est meilleure.
Oui. Alors, je disais donc que Platon est incontournable. D'ailleurs, un philosophe américain qui s'appelle Whitehead disait de Platon qu'il était tellement important que toute la philosophie occidentale, finalement, ce ne sont que des notes au bas de la page, au bas des pages de l'ouvrage de Platon. C'est pour te dire comment Platon est important. Il a parlé de tout, il s'est intéressé à tous les problèmes qui concernent autant la cosmologie que l'être humain, autant la politique que la morale, autant l'épistémologie que l'art. Il s'est intéressé à tout. Alors, c'est une vie aussi, il a vécu une vie très, très mouvementée. Il a vécu, il a été disciple de Socrate, il a été témoin de la mort de Socrate, la condamnation à mort de Socrate. Il a beaucoup voyagé, de 28 ans à 40 ans, il a beaucoup voyagé. Puis là, il a fondé l'Académie, qui est une école qui va quand même durer 9 siècles. C'est quand même important. Alors, non seulement Platon est important, mais le platonisme est important. L'Académie de Platon a été une école extrêmement importante. Il a aussi fait des voyages à Syracuse, qui est une ville au sud de la Sicile, dans le but d'organiser une cité idéale, parce que Platon a toujours été obsédé par l'organisation d'une cité où le bonheur des individus et le bonheur de la collectivité étaient en parfaite harmonie. Alors, ça aussi, ça l'a beaucoup intéressé, la politique. D'ailleurs, Platon, quand il était jeune, il hésitait beaucoup entre la politique et la philosophie. Finalement, il a plongé en philosophie, mais il s'est toujours intéressé à la politique et a toujours voulu justement fonder une république idéale, une cité idéale, qui l'a beaucoup obsédé à tel point que plusieurs livres, dont La République, qui est une œuvre majeure de Platon, où il est question justement de cette fameuse cité idéale. On va y revenir, bien entendu. Ensuite, Platon aussi est important parce que on retrouve chez Platon l'essentiel des grandes positions de la philosophie occidentale. Platon est un idéaliste et un dualiste, c'est-à-dire que pour lui, il y a deux mondes. Il y a le monde intelligible, une espèce de monde parfait, le monde des idées, qui est un monde stable, qui est un monde de vérité. Et il y a aussi le monde sensible, qui est le nôtre, le monde terrestre, le monde des apparences, le monde illusoire. Alors, ces deux mondes-là vont toujours obséder Platon, de sorte que pour lui, la connaissance, dans le fond, c'est une sorte de réminiscence de ce qu'on a vécu avant. Parce que pour Platon, l'âme humaine, elle se réincarne. Alors, l'âme humaine a déjà vécu dans ce monde idéal, et quand on est capable de faire de la philosophie sur Terre, c'est parce qu'on se souvient de la vérité et du bien qu'on a déjà admiré, qu'on a déjà vécu dans ce monde idéal. Alors, on voit tout de suite que Platon, finalement, a une vision du monde qui a beaucoup influencé la philosophie occidentale et surtout la philosophie chrétienne, puisque justement, chez les chrétiens, on retrouve aussi ce monde idéal et ce monde terrestre qui est imparfait. Platon aussi s'est beaucoup intéressé aux vertus, à la morale. Alors, pour lui, il y a quatre grandes vertus, ce qu'on appelle les vertus cardinales. La tempérance, c'est-à-dire la modération. Alors, ça peut nous intéresser en tant que simplicitaires. Il y a le courage et il y a la prudence. Normalement, dans la cité idéale, le roi philosophe doit pratiquer la prudence, la sagesse, et les guerriers dans la cité idéale doivent pratiquer le courage, et les artisans et les agriculteurs doivent pratiquer la tempérance, ce qui fait en tout une société juste. Alors, la justice est un peu la vertu absolue, la vertu idéale dans la vision de Platon. Alors, pour Platon, donc, l'harmonie entre la morale et la cité, c'est une chose importante. La morale doit guider l'individu, puis la politique doit guider la cité. Alors, c'est donc dit que pour Platon, il existe donc dans la connaissance une sorte de dialectique, une sorte de montée vers le bonheur éternel. Et ça se fait par la connaissance, ça se fait aussi par l'amour. Tout le monde connaît la fameuse locution, l'amour platonique. En quoi ça consiste, l'amour platonique? Mais c'est d'abord l'amour des corps beaux, des belles choses, des actions qui sont belles. Ensuite, l'amour des belles vertus, l'amour des lois, l'amour des idées, puis finalement, l'amour de la beauté en soi. Alors, l'amour platonique est donc une sorte d'ascension spirituelle vers un salut. Alors, c'est une montée vers le bien, c'est une montée vers le beau. On pourrait même dire, pour parler comme des chrétiens, c'est une montée vers la transcendance ou une montée vers Dieu. Alors, il y a donc chez Platon une forme d'innéisme, c'est-à-dire que l'âme immortelle a déjà vécu le monde des idées, mais la connaissance ne serait donc qu'une réminiscence de ce que l'âme a déjà vécu dans un passé. Alors, c'est pourquoi l'âme humaine est un peu prisonnière du corps, et à la mort, justement, il y a la libération de cette âme vers un monde meilleur. Alors, on voit tout de suite que Platon a eu une énorme influence sur la philosophie chrétienne. On peut faire des rapports comme ça, importants, entre la philosophie platonicienne et la philosophie chrétienne. Ensuite, ce qui est important, je le disais tantôt, c'est la mission, le devoir du philosophe qui est d'organiser une cité juste. Et pour ça, je vais parler d'une chose très importante qu'on retrouve chez Platon, qui est la fameuse allégorie de la caverne. Alors, l'allégorie de la caverne, on trouve ça dans un livre qui est peut-être l'ouvrage le plus emblématique de Platon, qui s'appelle La République. C'est le plus volumineux. C'est dans le livre dans lequel il y a presque toute sa philosophie. Alors, dans ce livre qui s'appelle La République, il y a plusieurs mythes, plusieurs allégories, dont la fameuse allégorie de la caverne. Alors, je vais donc en dire un mot. Et ça va nous permettre, justement, peut-être de faire le lien avec la simplicité volontaire. Alors, pour Platon, l'être humain, le monde terrestre, dans le fond, c'est un peu comme si on était, nous, les êtres humains, au fond d'une caverne, enchaînés, et on n'a qu'à regarder le mur d'en face, sur lequel mur il n'y a que des ombres. Les ombres qui viennent de l'extérieur de la caverne, où se trouve la lumière, où se trouve la vérité, où se trouve la véritable réalité. L'être humain qui est au fond de la caverne, qui ne voit que des ombres, qui ne voit que des illusions, il prend donc ses ombres et ses illusions pour du réel, mais dans le fond, ce ne sont que des illusions. Alors, la mission du philosophe, c'est de prendre conscience, justement, de cet esclavage-là. Les êtres humains sont des esclaves, sont prisonniers dans le fond de la caverne, sont prisonniers dans un monde terrestre illusoire. Il s'agit donc de sortir de cette caverne-là, puis de voir ce qu'est la vérité, la réalité, les vraies choses, et ensuite de revenir au fond de la caverne pour dire à ses contemporains, voilà ce qu'est la vérité. Mais ça ne veut pas dire que ça, c'est une chose facile à faire, au contraire, c'est difficile, parce que d'abord pour sortir de la caverne, il faut que le philosophe s'habitue à la clarté, à la lumière qui l'illumine, qui l'éblouit, et au retour, il faut qu'il s'habitue aussi à l'obscurité, et il faut qu'il arrive à convaincre ses contemporains que ce qu'il a vu est la vraie réalité, et ce qu'il a vu est et le vrai monde. Alors, ça me fait penser un peu, Jacques, aux simplicitaires Et à tous ceux qui sont, mettons, obsédés, sinon pas obsédés, mais mobilisés par les changements climatiques, qui voient la réalité en face et qui essaient justement de convaincre l'ensemble de la population du danger du mur qui est une réalité qui peut d'une catastrophe qui est possible, mais la majorité des êtres humains restent sceptiques vis-à-vis ces écologistes-là. Alors, on peut donc faire un parallèle entre le philosophe de Platon puis l'écologiste qui essaie de convaincre ses contemporains que la vraie réalité, dans le fond, elle n'est pas qu'une illusion. Les êtres humains sont divertis par des illusions, sont divertis par le cinéma, par la télévision, par toutes sortes de choses qui les mobilisent ailleurs que sur la vraie réalité qui se passe en dehors de la caverne. Je ne sais pas si tu vois un peu le parallèle que je fais entre la caverne de Platon puis la mission du philosophe, dans le fond, et la mission de l'écologiste qui doit convaincre ses contemporains que la vraie réalité, ce n'est pas les illusions qui nous divertissent au fond de l'obscurité. Tu comprends?
Ben oui, c'est une très belle allégorie, d'ailleurs, que Platon nous a donnée, l'allégorie de la caverne. C'est vraiment une belle histoire. Maintenant, on peut l'interpréter de différentes façons. On peut, comme tu dis, c'est en fin de compte, c'est l'expérience de l'individu qui devient conscient de la réalité, alors que les gens ou les humains, en général, vivent un peu dans l'illusion.
Exactement. Ils vivent dans l'illusion d'un monde imparfait, d'un monde éphémère, d'un monde matériel. Ils sont divertis, alors que le philosophe, lui, doit justement avertir ses concitoyens qu'à l'extérieur de la caverne, il y a le bien, le monde idéal, intelligible, parfait, l'éternel. Et la réalité, autrement dit, la vraie réalité se situe à l'extérieur de cette caverne-là. Et c'est pourquoi la sortie du philosophe se fait pour connaître le vrai, pour connaître le bien, pour connaître le vrai monde, la vraie réalité, alors que ses contemporains sont encore aliénés, prisonniers de leur divertissement, prisonniers de leurs illusions, de leurs ombres. Alors, on peut très bien faire un parallèle entre cette allégorie de la caverne et ce qui se passe dans le monde actuellement, là. Mmh. Parce que il y en a plusieurs qui nous avertissent de la catastrophe qui s'en vient, de la vraie réalité, du vrai monde, dans le fond, dans lequel on se trouve. Mais il y en a plusieurs qui ferment les yeux puis qui restent indifférents à ce qu'on leur dit parce qu'ils veulent justement ne pas perdre un iota de leur confort, tu comprends? Ils sont esclaves, mais confortables. Ils sont esclaves, mais divertis, amusés, distraits. Alors que le philosophe, ou si tu veux, l'écologiste, essaie justement de les convaincre de la réalité qui pourrait être catastrophique si on ne fait rien. Tu comprends?
C'est là aussi qu'on voit le lien aussi avec la simplicité volontaire, parce que quand je parlais tantôt de la hors-série, l'art de ne rien faire, pour les philosophes, rien faire, ça veut pas dire qu'on fait rien, ça veut dire qu'on prend le temps de réfléchir à nos choix. Puis c'était ça que les philosophes, comme Platon disait, il nous invitait à être en harmonie. Tu en as parlé, les vertus. Mais pour ça, il faut pas, quand on prend des choix, on prend des décisions, on les fait pas sur un coup de tête, mais on prend le temps de les réfléchir. Et c'est là un peu la philosophie et la simplicité volontaire, c'est prendre le temps de réfléchir à nos choix, à nos décisions. Et c'est ça, je vois un peu le lien avec la simplicité volontaire dans cet aspect-là de l'importance de ne rien faire.
Oui.
Oui. Écoute, veux-tu qu'on prenne une pause musicale?
Allons-y, puis j'ai d'autres choses à ajouter, bien entendu.
Puis on poursuit avec Platon au retour.
C'est bien parfait.
Alors, Jacques, on est de retour. En passant, c'était un menuet de Bach de l'ensemble Caprice. Et pour ceux que ça intéresse, l'ensemble Caprice vont se produire au Palais Montcalm le 13 octobre. C'est vraiment un très bel ensemble de musiciens qui font une musique classique extraordinaire. En tout cas, c'est la petite annonce. Alors, Jacques, on continue avec Platon.
Oui, alors on continue avec Platon. Platon s'est beaucoup intéressé à la politique, à la morale, bien entendu, je le disais tout à l'heure, parce que la morale va guider les désirs humains, la tempérance ou la modération va faire en sorte que les désirs humains vont se confondre, c'est-à-dire se soumettre à une mesure. La mesure, c'est... La notion de mesure chez Platon, c'est très, très important. C'est le désir doit être mesuré, l'esprit doit être mesuré par la prudence, le cœur doit être mesuré par le courage, puis toute la société doit être mesurée par la justice. Alors, c'est très important, la mesure. Il faut dire aussi, d'autre part, que chez Platon, les mathématiques, la géométrie, c'est très important. Et qu'est-ce que c'est que la géométrie, sinon l'étude de la mesure? Alors, chez Platon, à l'Académie de Platon, l'école de Platon, il était écrit au fronton de cette école-là, « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Alors, pour Platon, donc, les formes géométriques sont des formes idéales. Et pour lui, ces formes-là, même si on ne les voit pas parce qu'elles sont idéales, elles existent. Par exemple, il va dire une ligne infinie, on n'a jamais vu ça. Mais en géométrie, ça existe, une ligne infinie. Alors, c'est ainsi pour les idées, puis pour les formes, puis pour le monde idéal, c'est un monde de modèles. Alors, il faut donc que la morale nous guide pour qu'on puisse justement comprendre mieux les modèles du monde idéal. Alors ça, c'est pour la morale. En politique, pour lui, la politique, c'est très important parce que les cités, les agglomérations humaines qu'on appelle les cités à cette époque-là, c'était des cités-État. Alors les cités ont une tendance à aller vers la décadence, nous dit Platon, parce que il y a des risques de démagogie, il y a des risques de totalitarisme, il y a toutes sortes de des risques d'anarchie. Même pour lui, la démocratie, ce n'est pas la solution, puisqu'il y a trop de démagogie, il y a trop de populisme au sein de la démocratie, et il y a un risque d'éliminer les experts, les philosophes, ceux qui connaissent. Pour Platon, donc, l'éducation, c'est très important, et elle nous coûte cher, mais elle vaut mieux que l'ignorance, et c'est pourquoi, à la tête de la cité juste, il voit, lui, une espèce de roi philosophe qui use de sa sagesse, qui use de son courage, qui use de sa prudence pour pouvoir, justement, guider, administrer correctement la cité. Et dans cette cité idéale, il y a le roi philosophe, bien entendu, mais il y a aussi les guerriers qui défendent des ennemis extérieurs qui doivent mettre en pratique le courage. Et il y a les artisans et les agriculteurs qui, eux, doivent à pratiquer la tempérance, la modération. Alors, pour Platon, donc, la philosophie doit guider la cité. Le roi philosophe, lui, connaît la fin. Il a une vision du monde idéal. Et cette vision du monde idéal peut justement faire en sorte que la cité ne s'achemine pas vers des dérapages. La vérité pour Platon, la vérité ne se décide pas au suffrage universel. La vérité, elle est contemplée par le roi philosophe, et le roi philosophe, lui, doit justement transmettre cette vérité-là à tous ses concitoyens. Alors, vous avez donc une cité idéale, mais une cité idéale qui est utopique, bien entendu, parce que même, je dirais, non seulement utopique, mais il y a même un danger. En tout cas, c'est une interprétation personnelle. Il y a même un danger d'une forme de totalitarisme, parce que ce roi philosophe-là a tous les pouvoirs. Alors, bien entendu, aujourd'hui, on craindrait beaucoup qu'un roi philosophe s'octroie tous les pouvoirs dans une société. On parlerait justement avec raison d'une forme de totalitarisme, et c'est pourquoi il y a plusieurs interprétations, plusieurs interprètes, plusieurs commentateurs qui voient justement la cité idéale de Platon comme étant une utopie, mais qu'il ne faudrait surtout pas mettre en pratique. Si tu as des questions, Jacques, ne te gêne pas.
Ben oui, dans le sens que aussi, je voudrais revenir un peu à la simplicité volontaire. Platon, comme les autres philosophes de l'Antiquité qu'on a parlé, c'est que les autres philosophes, on a beaucoup retenu comment ils vivaient, puis pour eux autres, c'était très important comment bien vivre. Et pour Platon aussi, je suis certain, mais sauf que l'Académie a tellement duré longtemps qu'il y a un corpus écrit géant qu'on a aujourd'hui de Platon, tandis que les autres philosophes, si on pense par exemple à Épicure, on a beaucoup moins ses textes. Son école a peut-être duré moins longtemps, les textes, on les a pas. Mais certainement qu'à l'Académie, on devait vivre en simplicitaire, c'est ça que je veux dire.
Oui, sûrement, sauf que s'il y a une distinction à faire entre les stoïciens, les épicuriens et les platoniciens, c'est que dans l'histoire de l'Antiquité gréco-romaine, parce qu'il faut dire que l'Académie a même duré en pleine période de l'Empire romain, ce n'est qu'avec le christianisme, finalement, que les grandes écoles grecques ou gréco-latine ont été disqualifiées au profit justement des écoles chrétiennes. Mais dans ce grand ensemble-là de connaissances et de pratiques de vie, de mode de vie, l'Académie de Platon était quand même considérée comme la plus intellectuelle. C'est entendu que ceux qui vivaient à l'Académie, ceux qui poursuivaient les études à l'Académie, se devaient de pratiquer un mode de vie particulier, bien entendu. Mais il reste que les épicuriens et les stoïciens étaient beaucoup plus mobilisés par cette idée du mode de vie, de la pratique concrète, de la pratique pragmatique, si tu me permets cette expression-là, alors que chez les platoniciens, on était plutôt mathématiciens, géomètres, plus intellectuels, plus proches de la recherche de la vérité abstraite que de la pratique concrète de la sagesse qu'on retrouvait chez les épicuriens et chez les stoïciens. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs la philosophie occidentale, toute la philosophie occidentale a été très influencée par Platon, parce que on retrouve beaucoup dans la philosophie occidentale un intellectualisme, ce qui différencie beaucoup la philosophie occidentale de la philosophie orientale, des sagesses orientales, qui, elles, justement, ont beaucoup misé sur le mode de vie, un peu comme les sages stoïciens et épicuriens. Alors, tu me suis? Oui.
Oui, ben oui, ben oui. Mais même Pierre Hadot, il me semble que j'ai lu qu'il disait, même pour l'Académie, il disait que, dans le fond, même si on voit que c'est une école très intellectuelle, les textes qu'il lisait et qu'il écrivait, c'était, dans le fond, des exercices spirituels pour eux autres.
Oui, je nie pas le fait que les académiciens qui suivaient les cours de la philosophie de Platon, parce que ça n'a pas toujours été Platon, évidemment, qui était à la tête de l'école, il y a eu plusieurs directeurs de cette école-là, de cette académie-là, je ne nie pas le fait qu'ils aient eu comme mot d'ordre de se comporter d'une certaine façon, d'avoir un mode de vie harmonieux avec les idées, puis avec l'idée de bonheur, bien entendu. Ça, je ne le nie pas. Sauf que dans l'ensemble des grandes écoles gréco-latines qui ont été disséminées à travers l'Empire romain, mais le lycée, puis l'Académie, le lycée d'Aristote, puis l'Académie de Platon ont été les plus intellectuels, si je les compare aux autres écoles stoïciennes et épicuriennes. C'est une question de mesure, là. C'est une proportion. T'sais. Chez les stoïciens, chez les épicuriens, c'est surtout le mode de vie qui les intéressait. Alors que chez les académiciens de Platon, on était plus intellectuels, plus proches de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les universités.
C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à l'émission, on a beaucoup mis d'emphase sur Épicure puis les stoïciens, parce que eux autres sont vraiment plus des philosophes de la simplicité volontaire que Platon,
oui.
Qui c'est moins évident, disons, que c'était des simplicitaires, malgré qu'ils l'étaient tout autant que les épicuriens et les stoïciens, mais ça transparaît moins, disons.
C'est entendu qu'avec Épicure, on a quasiment les meilleurs guides avec la philosophie d'Épicure. On a peut-être le meilleur guide pour tous les simplicitaires du monde entier, là. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qu'il nous recommande? Il recommande la mesure, la tempérance, la modération, la pratique, la satisfaction des besoins naturels nécessaires. Bref, toute la philosophie d'Épicure est très, très, très proche de la philosophie de la simplicité volontaire, beaucoup plus que chez Platon. Mais n'empêche que Platon est un très grand philosophe et on a toujours intérêt à nous en inspirer puis à aller voir comment la philosophie occidentale a démarré, parce que Platon, dans le fond, c'est un peu le démarreur de la philosophie occidentale. Il y a eu Socrate, bien entendu, mais Socrate n'a rien écrit. On connaît Socrate par Platon. Alors, puis en plus de ça, Platon a eu un élève qui s'appelait Aristote, qui est un monument, un autre monument. Alors, on a là, justement, en trois générations, Socrate, Platon et Aristote, qui sont à l'origine de toute la philosophie occidentale, de tous les grands mouvements occidentaux en philosophie, que ce soit l'innéisme, l'idéalisme, le réalisme, bref, nommez-en. Tout, on retrouve tout ça chez Platon et chez Aristote. Alors, et ceci, bien entendu, grâce à Socrate, et aussi il y a plein d'écoles. Ce sont les Platon et Aristote, ce sont des grands socratiques, mais il y a plein d'écoles qu'on appelle les petits socratiques, comme les sceptiques, les épicuriens, les stoïciens, les cyrénaïques, ainsi de suite, qui ont tous été inspirés par Socrate. Et quand on dit inspiré par Socrate, ça veut dire aussi inspiré par Platon, parce que c'est Platon qui l'a diffusé, Socrate. Tu comprends?
Oui, puis je pense qu'il y avait des disciples. Socrate avait carrément des gens qui le suivaient, là, puis qui apprenaient de lui, qui ont formé des écoles. C'était,
oui,
c'est un géant, c'est un géant de la philosophie, là, Socrate.
Exactement, comme par exemple les cyniques, ils ont été des contemporains de Socrate. Antisthène était un ami de Socrate. Puis Diogène, plus tard, a connu aussi Antisthène et Socrate. Alors, il y a plusieurs exemples de philosophes qui ont été à l'origine d'écoles, qui ont eu beaucoup de succès dans l'Antiquité et qui ont été au départ des contemporains de Socrate. Ça c'est entendu, mais la philosophie de Socrate a surtout été diffusée par Platon. Et c'est pourquoi Platon devient important, non seulement à cause de sa propre philosophie, mais à cause aussi de ce fameux personnage qu'on retrouve dans presque tous ses dialogues, qui est le fameux Socrate. Et à tel point qu'on se demande souvent, est-ce que c'est la philosophie de Socrate ou c'est la philosophie de Platon? Les spécialistes de Platon se posent encore la question. Et c'est pourquoi on fait beaucoup de distinctions quand il s'agit d'étudier les dialogues de Platon, les dialogues de jeunesse qui sont plus socratiques que les dialogues de la maturité ou de la vieillesse sont plus platoniciens. Tu comprends? On se rend compte qu'il y a une différence au fur et à mesure que Platon vieillit. On se rend compte que ses dialogues sont plus proches de sa propre philosophie à lui qu'au départ. Au départ, les dialogues étaient très proches de la philosophie de Socrate.
Puis je pense que Socrate, lui, est plus proche des simplicitaires parce que, dans le fond, lui, il n'écrivait pas. Lui, il trouvait que l'écriture, c'était quasiment comme une perte de temps. Là. C'est Platon qui notait les dialogues que Socrate avait avec les autres philosophes. Puis en plus, Socrate, il disait qu'il ne savait rien. C'est ce qui est fascinant.
Oui, oui, oui.
C'est tout un personnage.
Vraiment qu'à propos d'écriture, à propos du langage, il y a quand même un dialogue, il y a quand même un ouvrage de Platon. Platon s'est intéressé à tout. Il y a nomme-moi un problème philosophique, Platon l'a abordé, ça c'est certain. T'sais. Comme par exemple, est-ce qu'il vaut mieux parler qu'écrire? Ça c'est un autre problème qui a été soulevé par Platon, et Platon apporte son point de vue. Alors, presque tous les problèmes qui concernent la philosophie, Platon les a abordés. Alors, c'est d'où justement cette importance énorme qu'on a quand on a affaire au philosophe Platon.
Là, on arrive à la fin de l'émission. On va être obligé de conclure. Mais est-ce que pour nos auditeurs qui voudraient lire, parce que Platon, c'est tellement énorme, le corpus, là, c'est quasiment pas faisable de tout lire Platon, mais est-ce que tu as une recommandation de lecture pour des gens qui voudraient...
Moi, je recommanderais deux dialogues de Platon qui sont plus simples. L'un s'appelle l'Apologie de Socrate. C'est l'histoire de la mort de Socrate.